William de Vigder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements de BNP Paribas Investment Partners. On va parler avec vous de stratégie d'investissement et de perspectives, avec sans doute pour cette année 2014 un début d'année plus compliqué avec ce qui s'est passé sur les marchés émergents. Comment vous l'avez vécu cette période-là? On a vu, on pourrait dire, un retour de la volatilité, c'est ce qui est le plus frappant?
Oui, tout à fait. Le retour en tant que tel n'est pas surprenant dans la mesure où on est maintenant dans un mode de normalisation de la politique monétaire américaine. Ce qui a été surprenant, c'est que cette volatilité se manifeste surtout du côté marché émergent parce qu'on estimait que après l'orage qu'on a vu à la fois au mois de mai 2013 et au mois d'août et septembre, que maintenant tout était bien reflété dans les prix. Ce n'était pas le cas. Je pense qu'il y a eu surtout une angoisse concernant le développement en Chine dans le système du shadow banking, également lié avec donc, les indications d'un ralentissement supplémentaire de la conjoncture.
Alors, du côté de l'environnement, donc, il y a cette nouvelle volatilité. Les investisseurs sont aussi très regardants sur ce qui se passe sur la politique américaine, la politique de la réserve fédérale. Est-ce que vous avez noté un quelconque changement ou là, on est sur quelque chose que les investisseurs peuvent assez bien, entre guillemets, visualiser?
Oui, on est dans la continuité totale. En fait, pour expliquer la politique monétaire américaine, j'ai envie de faire référence à la Banque d'Angleterre qui, donc, hier a annoncé que la politique, la reprise ne peut pas être mise en danger. Ce qui très concrètement veut dire que dans la politique monétaire adoptée au Royaume-Uni, il y aura un biais vers un maintien d'une politique très souple, en d'autres termes, prendre un peu de risque avec de l'inflation. Et je pense que les Américains vont suivre exactement le même schéma.
Alors ça a été tout de même un peu plus compliqué. Alors, pour des raisons un petit peu extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a eu un hiver et un hiver toujours assez compliqué aux États-Unis, très très froid. Et donc au niveau économique, macroéconomique, on a un peu de mal à voir ce qui se passe derrière ça, l'impact de l'hiver et l'état réel de l'économie en quelque sorte.
Oui, effectivement, ça a été assez compliqué. Bon, il n'empêche que pas mal de statistiques ont aussi surpris favorablement, mais on a également eu la déception. D'une manière générale, en tendance, ça se présente quand même plutôt bien aux États-Unis. Deux bémols, si je puis dire, c'est que du côté ménage, certes, les ménages ont été au rendez-vous, la consommation a monté, mais en même temps, ils ont quand même puisé dans une certaine mesure dans leur taux d'épargne. Donc ça, ça ne peut pas continuer, bien évidemment. Et l'autre point, c'est l'absence, pour ainsi dire, des entreprises en termes d'investissement. Maintenant, il y a un élément, une lueur d'espoir qui se dessine, c'est que maintenant aussi les PME, dans les enquêtes, affichent quand même un peu plus d'optimisme et disent qu'ils sont prêts à investir un peu plus. Mais donc ça, c'est un facteur qu'il faut suivre de très près, parce que s'il reste une certaine inertie, passivité, ça voudrait dire aussi que la conjoncture resterait assez molle aux États-Unis cette année.
Ah, peut-être avec un marché de l'emploi qui ne s'améliorerait pas suffisamment.
Oui, pour l'instant, qui s'améliore d'un point de vue du taux de chômage, comme on le sait, mais plus pour des effets statistiques, taux de participation qu'autre chose.
Alors, sur de ce côté-ci de l'Atlantique, sur l'Europe, on a tendance à entendre stabilisation en Europe. Quel regard vous portez-vous sur cette zone?
Au niveau des indicateurs avancés, des indicateurs de confiance, etc., ça reste quand même bien orienté. Ce qui est important, c'est que ça touche les différents secteurs, ça touche les différents pays. Par ailleurs, la confiance du marché obligataire, du moins, est quand même au beau fixe, si je puis dire. Il suffit de regarder les succès qu'ont connus l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, etc. Maintenant, les Grecs même s'apprêtent à faire appel au marché des capitaux. La grande interrogation, bien évidemment, c'est face à la tendance des inflations qui continue. Jusqu'où est-ce que ça va continuer? Et le cas échéant, est-ce que la Banque centrale européenne aura les instruments pour réagir? À ce propos, on peut quand même constater une certaine évolution dans son discours, c'est-à-dire que vers la mi-novembre 2013, elle disait « oui, on a beaucoup d'instruments, etc. etc. ». Lorsqu'on regarde les propos qui ont été tenus plus récemment, on nuance quand même, on dit « oui, on pourrait faire un LTRO, mais ça va être difficile de trouver le titre dans le cadre de la titrisation ». et des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'elle adopte pour l'instant une attitude d'attente, peut-être dans l'espoir de voir que finalement l'embellie conjoncturelle se traduise dans une stabilisation de l'inflation.
Oui, parce qu'il y a eu des débats sérieux avec, bien sûr, la Cour constitutionnelle allemande sur ce sujet-là. Et là, on se pose des questions sur la légalité, entre guillemets, de ce qu'a pu faire la Banque centrale européenne. Hein. Donc, c'est très sérieux.
Oui. Bon, là, les opinions sont très mixtes. Si, finalement, passer la patate chaude, disons, à quelqu'un d'autre, et si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, disons que le sentiment qu'on a, c'est qu'au besoin, la Banque centrale européenne sera très originale dans son approche, mais pour l'instant, on ne voit pas très, très clair ce qu'elle va faire.
Donc c'est un vrai sujet, cette question de désinflation, effectivement. Du côté de l'allocation d'actifs, justement, est-ce que les actifs risqués restent encore favorisés?
Oui, il y a une raison positive, une raison négative, pour ainsi dire. La raison négative, c'est plutôt que de dire, bon, lorsqu'on regarde les opportunités, les belles opportunités ne se présentent pas d'une manière tellement nombreuse en termes de valorisation au sein des actifs risqués, donc les actions, il faudra déjà regarder les marchés émergents. Alors là, on a à la fois un discours de certains qui broient du noir, tandis que d'autres disent on a atteint le creux. Lorsqu'on regarde les marchés développés, l'élément positif, c'est bien évidemment les perspectives de croissance des bénéfices qui sont bien là. Le point important à ce propos, c'est qu'au niveau américain, les surprises, donc dans le trimestre des résultats, les surprises au niveau du chiffre d'affaires ont largement dépassé les expériences précédentes, ce qui est quand même un signe très encourageant. Si bien donc que la perspective de croissance des bénéfices va être le moteur, presque le seul moteur, pour pousser les cours à la hausse. L'autre élément qui est important, bien sûr, c'est justement cette politique des banques centrales de ne pas créer des secousses qui implique aussi que l'appétit pour les risques des investisseurs devrait rester plutôt élevé.
Donc il y a toujours cet avantage action, mais avec cette volatilité qu'il faudra gérer, on va dire, au jour le jour, et s'il y a de nouveaux soucis émergents, ou l'Italie, on voit qu'à nouveau l'Italie pourrait être plongée dans une crise politique, ça peut être aussi un sujet d'inquiétude pour les investisseurs.
Ah oui, mais là, effectivement, au deuxième trimestre, donc tout le focus sera sur les élections européennes. Et donc là, il y aura beaucoup de couverture dans les médias. Et donc ça peut effectivement donner lieu à quelques soubresauts, oui.
Merci William de Vigdère d'avoir été avec nous aujourd'hui, parler de cette stratégie d'investissement.
Plaisir.